du cadre général et du projet politique au niveau local. Donc tout ça, on l'a traduit, bien sûr, dans un PLU. Voilà, donc je vais vous présenter ce document. Et comme je le disais, on ne va pas s'attarder parcelle sur parcelle, hein, ce n'est pas l'objet. C'est plus vous expliquer comment il a été construit et quelles sont ses caractéristiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce document est disponible au secrétariat. Hein, les plans et le règlement qui va faire sont disponibles au secrétariat.
À l'accueil.
Donc si vous voulez les consulter, puisque là vous voyez, pour d'abord, quand on est au fond, on ne doit certainement pas très bien voir. Et puis si vous voulez prendre le temps tranquillement de regarder ce qui peut vous intéresser, c'est possible dès à présent, hein, comme le PADD est disponible, il a été présenté au conseil municipal en juillet 2022, voilà, donc ça fait déjà quelques mois, donc ça c'est des documents qui sont parfaitement publics, bien évidemment. Voilà, alors, comment on a construit notre pays? Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est que par rapport à tout ce qu'on vous a expliqué en préalable, il y a très très peu d'extension urbaine. Alors, qu'est-ce qu'on parle? Comment on fait la distinction entre l'extension urbaine ou la densification? C'est quand j'ai un espace qui est déjà bâti, dans lequel j'ai des dents creuses qui existent, on fait ce qu'on appelle de la densification. Quand j'ai une enveloppe urbaine, qui est déjà occupé et que je viens de construire à l'extérieur, extramuros, si je puis dire, on parle d'extension urbaine. Voilà. Alors, vous avez compris que dans le cadre, ça fait presque une heure qu'on parle de ça, il y a extrêmement peu d'extension urbaine ciblée sur quelques projets vraiment précis. Voilà. Donc le développement de notre PLU va se faire majoritairement dans les espaces qui sont déjà bâtis. Alors, sur les plans, vous verrez donc la couleur un peu vert jaune, là, ce sont des espaces agricoles. Le vert, ce sont des espaces naturels. Alors, il y a pas mal de taches bleues un peu partout dans la commune, ce sont des zones humides. Voilà, alors qui sont classées soit en agricole, soit en naturel. Les zones humides sont par la loi protégées. Hein, donc, on a certaines zones, bah, tiens, je prends au hasard, mais je vais prendre mon petit stylet, voilà, mon pointeur. Voilà. On a par exemple ici des secteurs qui sont urbanisés, on a à côté une zone humide, on ne pourrait pas construire dedans, même si on avait les meilleures régions du monde pour aller urbaniser, on ne peut pas. Ici pareil, vous voyez, on est vraiment tangent aux espaces urbanisés, on a une zone humide, c'est impossible de construire dedans. Après, parfois, vous verrez, il y a des découpages un peu bizarres. Pourquoi ils ont fait des découpages bizarres? C'est parce qu'on s'est calé sur le plan de prévention des risques naturels, le fameux PPR. Donc la commune est concernée par deux PPR. Il y a le PPR d'Arrache et le PPR de Flaine. Donc des fois, vous allez dire, s'ils sont fous, ça fait la limite de zone a fait des zigzags bizarres. C'est généralement lié à ça, hein, lié à la prise en compte du PPR. Parce que vous doutez bien que quand il y a des secteurs à risque, évidemment, on n'a pas le droit de construire les tassés constructifs, bien évidemment. Voilà. Et puis après, on a toute une déclinaison, hein, de zones. Donc ici, cette diapo, c'est le secteur de la Frasse. Hein, donc ici, on a le vieux secteur de la Frasse. Ici, on est à Balancy, Trédon. Et là, c'est le Pierre Mineur, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc on est donc dans la partie nord de la commune. Et donc, dans les zones constructibles, il y a toute une distinction. Hein. Donc, les parties qui sont un peu roses, hein, comme ici le vieil la face, ce sont les hameaux anciens. Voilà, hein. Donc, il y a des règles d'urbanisme. Pour chaque zone, il y a des règles d'urbanisme. Donc, dans les hameaux anciens, évidemment, l'objectif du règlement, c'est de préserver les caractéristiques de ces hameaux. Donc, je vous passe au détail, puisque le règlement c'est très technique, hein, mais on a mis des règles de proportion pour les bâtiments, hein, pour éviter qu'il y ait des choses de contre-nature, hein, et notamment dans notre secteur, on a des chalets très aplatis, hein, très larges, très, très plats, hein, donc avec des règles de proportion, on a des lignes dans le PLU, etc. Bon. Donc, tout ce qui est en rose, ce sont les vieux, les vieux hameaux traditionnels, donc on va dire grosso modo, qui ont été construits avant 1940, pour faire simple. Alors ensuite, on a en orange, alors il y en a pas mal sur la commune, c'est les fameuses zones de chalets dont parlait Jean-Paul Poussin. Voilà. Les zones de chalets, donc c'est ces zones oranges, qui sont de l'habitat principalement individuel, sous forme de chalets discontinus, hein, c'est-à-dire que le chalet est au milieu de la parcelle, hein, contrairement aux vieux villages où souvent les chalets sont collés les uns aux autres, plus ou moins collés les uns aux autres. Dans les zones de chalets, on est dans un habitat discontinu. Et donc on verra un petit peu plus loin, c'est un des axes forts de ce nouveau PLU, comme l'expliquait Jean-Paul Constant, c'est de préserver la qualité de ces zones de chalets. Parce que vous avez très bien compris que comme maintenant on ne peut plus mettre d'extension nouvelle, et bien le promoteur il rachète, il casse et il reconstruit. Ça commence à arriver chez vous, ça commence à arriver, je peux vous dire que dans le Genevois, c'est toutes les semaines qu'il y a un permis qui arrive, j'achète 3-4 villas, je casse, toutes les communes, là, Archand, Nédan, enfin, Saint-Julien, enfin, tous ces coins-là, c'est le pain quotidien de ces communes. Hein. Donc, voilà, là c'était vraiment un choix politique des élus, de dire que c'est la caractéristique, l'image de notre commune, on veut préserver ces zones de chalet. Et on verra, on fera un petit détail tout à l'heure pour voir comment ça marche. Alors après, je vais passer un peu vite hein, sur le reste de la commune. Donc là, on est dans le secteur de Arrache. Donc on retrouve en rose le vieux village, en orange toutes les zones de chalets. Et puis on commence à voir apparaître ici, par exemple, pour la cette couleur un peu bleu acier. Alors ici. Oui, à l'écran, c'est pas tout à fait pareil. Il y avait des zones comme ça qui sont un peu violettes, voilà. Qui sont les fameuses zones hôtelières. Voilà. Donc, effectivement, comme le rappelait Jean-Paul tout à l'heure, on a un certain nombre d'établissements qui sont des établissements, alors, soit des hôtels, soit des centres de vacances, soit des résidences de tourisme. Et on veut éviter absolument que ces établissements se transforment en copropriété. Donc on a créé cette fameuse zone hôtelière qui fait que les établissements ne peuvent pas changer de destination. C'est-à-dire qu'une résidence de tourisme, elle doit rester une résidence de tourisme. Elle ne pourra pas devenir une copropriété. Voilà. Alors, à Arrache, on a qu'un secteur. Après, évidemment, quand on monte au Carreau et à Fennes, il y en a beaucoup plus. Et puis, on a cette particularité, par exemple, autour de la mairie, ici, les services techniques, donc il y a des zones d'équipement public hein, qu'on a créées également. Voilà, alors après, on monte au Carreau. Donc là, effectivement, au Carreau, c'est un peu plus complexe, hein, parce qu'on a différents tissus urbains. Là, par contre, contrairement au village, on a une certaine densité. Hein, donc là, tout ce qui est en orange, par exemple, en orange foncé ou en orange clair, c'est des zones de densité un peu plus forte. Voilà. On a des immeubles, des copropriétés, etc. On retrouve toujours nos zones de chalets, hein, qui sont un peu à droite à gauche. Et puis, on a tout autour de. Là, ça, alors, évidemment, on ne voit peut-être pas très bien, hein, mais ici, c'est le départ des Téleuses, hein, de la télécabine, et tout autour. On a mis des zones hôtelières, alors existantes ou futures. Par exemple, ici, sur le parking de Téleuse, on l'a classé en zone hôtelière. On s'est dit, ben, peut-être qu'un jour, on pourra sur ce parking construire. Ça a été fait. Moi, j'ai travaillé sur un projet de ce type-là à Courchevel, hein, à La Tania, exactement, qui est un des villages de Courchevel, où il y avait un parking public comme ça, et on a construit. Hôtel et résidence de tourisme sur le parking. Pour nous, en plus, c'est tout bénef, hein, parce que comme c'est un espace qui est déjà artificialisé, parce que ce sont des parkings, ça ne rentre pas en compte dans notre comptabilité. Voilà. Donc pour nous, c'est tout bon. Quoi. Voilà. Et puis, eh ben, on en a un peu partout, notamment dans le secteur des servages, hein, où on a différentes résidences de tourisme et hôtels. Donc on trouve ça un peu disséminé. Alors, comme je le disais, sur les carreaux, Le pays est un petit peu plus complexe, parce que le tissu urbain est plus complexe, hein, par rapport au village. Voilà, et puis bon, je continue, on monte un peu ici, donc on est dans la partie amont des carreaux, hein, les carreaux sud, voilà, où là on a effectivement, par exemple ici, une zone hôtelière, c'est le projet de Terre-Essence, voilà, et puis toutes les zones de chalet, etc. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'extension urbaine. L'extension urbaine, les seules exceptions qu'on a fait, et je crois que j'ai oublié de mettre la diapo, mais ça c'est pas grave, je peux la retrouver, c'est la zone artisanale qu'on a prévue à côté de la station d'épuration, donc le secteur des racines. Voilà, donc c'est une zone artisanale qui fait à peu près 3 hectares, qui est scindée en deux tranches. Hein, une première tranche qui fait à peu près 2 hectares, une deuxième tranche qui fait à peu près 1 hectare, voilà, qui est en discontinuité totale. Hein, et donc j'en profite pour expliquer que la commune est soumise à la loi Montagne, et la loi Montagne interdit de construire en discontinuité. Voilà. Sauf exception. Et l'exception, il faut obtenir un accord préalable d'une commission qui s'appelle la commission des sites, qui va juger de l'opportunité ou non de construire en discontinuité. Alors, on a présenté quelques projets comme ça, en discontinuité. On a la zone des racines, donc qui est une zone artisanale. Dans la boucle, hein, quand on monte la station d'épuration, il y a la boucle. Il y a déjà pas mal de remblais à cet endroit-là. Hein, parce qu'on s'est dit qu'une zone artisanale, il y a quand même un peu de nuisance, hein, du trafic de camions, il peut y avoir du bruit, si par exemple, je sais pas, on a une série, je ne sais quoi. Hein. Et qu'il fallait mieux le mettre loin des habitations. D'ailleurs, la loi Montagne fait une exception pour les activités nuisantes. Et on est vraiment dans le cadre d'une activité nuisante, une zone artisanale. Enfin, plus ou moins nuisante. Voilà. Je ne sais pas, mais imaginons qu'il y a un carrossier qui vient de s'installer, ben, ça fait un peu de bruit, quoi, hein, etc. Donc, on a présenté ce dossier qui a été accepté. Et puis, on a présenté quelques autres dossiers, alors pas beaucoup, hein, qui sont plus en rapport avec le tourisme. Donc, on a un dossier pour l'installation du refuge Tonneau au niveau de l'Arparon, donc là vers Verflaine, hein, donc le secteur de Pierre Carré, le refuge de Charles-Perriand, le refuge Tonneau, voilà, qui est un peu itinérant aujourd'hui, quoi. Il est plus la fin. En ce moment, il est à Saint-Gervais, je crois. Il me semble que je l'ai vu à Saint-Gervais l'autre jour. Voilà, il est un peu itinérant, mais il a vocation à venir s'installer de façon un peu plus long terme à l'Arparon sur un circuit de randonnée qui est prévu. On a obtenu l'accord pour cette discontinuité. Alors, dans le jargon, les discontinuités, on appelle ça des SECAL. Ça veut dire secteur de taille et de capacité d'accueil limité. Il y a beaucoup d'acronymes dans votre métier, je suis désolé. Mais voilà, donc on en a obtenu un également pour une roulotte touristique à côté de la Chèvrerie. On a obtenu un SECAL au col de Pierre Carré pour une aire de camping-car sur l'ancienne carrière au niveau du col. Donc, bon, là c'est un espace qui est déjà artificialisé aussi, hein, parce que c'est des remblais, bon, donc on n'a pas eu beaucoup de problèmes pour avoir l'accord. Et puis on a présenté un dernier SECAL dans le secteur des Bolliers, hein, pour faire donc, quelques chalets, un hébergement un petit peu innovant, de type écologe, donc au niveau pas loin du départ du télésiège des Bolliers. On l'a présenté une première fois, ça a été refusé. Même si on avait un avis positif de la DDT, la commission, je pense, n'a pas tout à fait compris les tenants et les aboutissants de notre projet, donc on le représente au mois de juin. Voilà. Espérant que cette fois-ci, on sera plus convaincant sur ce projet. Voilà. Donc c'est très rare exception, parce que quand on part, à part la zone artisanale qui est de 3 hectares, ah oui, les restaurants d'aptitude, effectivement, les restaurants d'aptitude sont soumis au SECAL. Voilà, donc là, à part la zone artisanale qui fait 3 hectares, le reste, on parle de quelques centaines de mètres carrés, hein, c'est très très petit. Hein, le chalet tonneau, je crois qu'il fait 60 mètres carrés en prise au sol. Enfin bon, vous voyez, l'arboloque, je crois que c'est 30 mètres carrés en prise au sol. Enfin, c'est tout, tout petit, petit, petit. Voilà. Donc sinon, à part ça, on est dans les enveloppes urbaines. On n'a pas de discontinuité. On a quelques excroissances. Hein, donc, on en a une au carreau, justement, sur le parking de Quai d'Euse. À Flaine, on est extrêmement contraint par différentes choses. D'abord, c'est les dossiers UTN, unité touristique nouvelle, qui aujourd'hui est achevé. Hein, donc, il y avait des mètres carrés qui avaient été accordés il y a quelques années. Il y a eu UTN 1 et UTN 2. Donc, aujourd'hui, il y a plus de mètres carrés disponibles dans l'UTN. Et puis il y a le PPR à Valence qui est extrêmement contraignant. Voilà. Donc la seule opération qu'on a prévue, c'est ici, une toute petite zone qui fait 4000 m2, je crois, qui est dans le prolongement des chalets scandinaves, donc tout à fait à l'amont, hein, tout à fait en haut, dans le prolongement, pour faire de l'habitat touristique. Hôtelier, enfin par hôtelier. Voilà. C'est donc, voilà, à Flaine, c'est il y a 4000 m2, point de permis. Il n'y a rien d'autre. Voilà, bon, je voulais vous présenter un petit peu rapidement. Après, bien sûr, le but c'est que vous puissiez poser toutes les questions que vous voulez. On fera peut-être des marches arrière si il y a besoin, hein, bien évidemment. Donc, juste un peu rapidement. Ce règlement écrit, alors vous en faites cadeau parce que ça fait 200 pages et là vous allez avoir une indigestion, juste pour dire que sur la règle, la zone UD, on a mis des règles très particulières pour préserver le tissu de chalet. Alors je les passe un peu rapidement, mais par exemple on a prévu un coefficient d'emprise au sol maximum de 20%, c'est-à-dire au maximum 20% de la parcelle peut être bâtie. Donc j'ai un terrain de 1000 m2. Je ne peux bâtir que 200 m2 au sol. Voilà. On a prévu des règles d'implantation, on a prévu des distances par rapport au terrain du voisin, pour éviter que les chalets se touchent les uns aux autres. On a prévu des distances des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de densification quand j'ai un terrain que j'utilise et puis je fais un autre chalet au bout de mon terrain. On a prévu des règles de séparation. Hein. On a prévu des hauteurs modestes, hein, 10 mètres, pour éviter qu'il y ait des immeubles qui s'installent. Et on a prévu des règles de proportion, hein, pour garder les proportions de chaleur. Et deux règles très importantes, c'est que la plus grande façade d'une construction ne peut pas dépasser plus de 20 mètres. Et on a prévu des surfaces d'espace vert de au moins 40% de la parcelle. Donc j'ai une parcelle de 1000 m2, je suis obligé d'avoir au moins 400 m2 d'espace vert de pleine terre. Donc toutes ces règles, alors, charge technique, c'est un peu compliqué, mais tout ça pour dire qu'on reste dans la typologie de chalet. Voilà. Je vous fais grâce de toutes les autres zones, parce que sinon, on n'est pas couché. Alors, après, j'ai presque fini, hein, c'est quelques diapos sur le bilan de l'évolution des surfaces entre le PLU 2005 et le PLU 2023. Voilà, donc il y a des plus et des moins, hein, parce qu'il y a, certaines zones qui étaient classées en U ou en AU qui ont été déclassées, et d'autres qui ont été classées. Voilà, qui étaient en zone N, qui sont devenues en zone U. Mais souvent, par exemple, c'était de la zone N d'équipement et qu'on a classé en zone U d'équipement. Je prends par exemple autour du RIS, à Gondelalis, hein, autour du RIS, le centre équestre, tout ça, là, on l'a classé en zone U pour des équipements publics. Voilà. Hein, donc c'est pas dans les 13 hectares qu'on a rajoutés, il y a aussi la zone artisanale dont on parlait, etc. Donc si on fait le décompte, en fait, le PLU se solde par l'augmentation de 67 hectares des zones agricoles naturelles. Dit autrement, on a réduit de 67 hectares les zones urbaines ou les zones agro-urbaines. Bon, sachant que, je le répète, mais déjà toutes les zones agro-urbaines comme votre PMU de 2005, ben, c'est des zones qui ont plus de 6 ans, elles sont prises. Donc là, de toute façon, on en parle plus. Hein. Par la loi, hein, pas parce qu'on a décidé un jour, tiens, ça serait sympa de les enlever. Quoi, hein. Voilà. Donc, voilà un peu pour le bilan. Et puis, je terminerai par le gisement constructif dans le PLU. Donc, qu'est-ce qui reste constructif dans le PLU? Il reste quand même pas mal de terrains constructibles. Vous voyez, j'ai fait la distinction dans les différents secteurs, hein, les dents creuses, etc. Et en fait, il nous reste 16 hectares constructibles. Voilà, donc, on peut imaginer qu'on ait 16 hectares qui viennent se construire. Voilà, et puis j'en aurai terminé pour cette présentation, un peu longue mais un peu synthétique. Vous imaginez qu'en 3 ans, on a beaucoup travaillé. Alors, je vous propose maintenant peut-être de passer aux questions-réponses. Je vais garder un micro qui va se promener. Et...